Mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir aussi nombreux. Comme c'est une manifestation littéraire, une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce court discours par une petite lecture. Certains reconnaîtront leur prose. Quand Seryoja sera rentré, c'est là qu'ils se retrouveront à coup sûr, presque à la nuit tombée. Ils se retrouveront et s'embrasseront, comme la première fois à l'année de leurs 13 ans. Il rentrera quand les fusils se seront tus. Il rentrera et, à n'en pas douter, courra tout de suite à sa porte. Il appuiera sur la sonnette, elle lui ouvrira. Elle lui ouvrira sans faute, à moins qu'un nouvel obus perdu, tiré on ne sait par qui, d'on ne sait quel canon, ne crève sa fenêtre, changeant l'appartement en un nid dévasté béant sur le monde. Ces obus atteignent les fenêtres des immeubles chaque nuit, dévastent d'autres appartements. Mais jusqu'à aujourd'hui, Anna a eu de la chance. Pas un seul même n'est tombé sur son bâtiment de 4 étages. Tout ira pour le mieux. Ceux qui font la guerre seront bien un jour à court de munitions. Les réfugiés rentreront chez eux et la lumière s'allumera à nouveau à leurs fenêtres. Ça viendra plus tard. Peut-être pas avant longtemps, mais ça viendra forcément. Ces quelques lignes sont extraites d'une nouvelle écrite par Andrei Kourkov, non pas du dernier ouvrage dont Sonia Moumen nous parlera, mais d'une nouvelle que Andrei Kourkov avait eu l'amabilité d'offrir à Lettres du Monde lors de sa dernière venue à Bordeaux en 2014, dans un recueil qui s'appelait « D'amour et de guerre ». Alors, je n'ai pas besoin de commenter longtemps, évidemment. Le caractère actuel peut être un peu prémonitoire d'un texte comme celui-ci. Et si je l'ai choisi, c'est d'une part pour rendre hommage à notre invité, le remercier d'être venu à nouveau à Bordeaux nous rejoindre, et aussi, évidemment, pour faire référence aux événements terribles aux portes de l'Europe. Également pour souligner le caractère évidemment un peu ironique du titre que nous avons choisi pour cette 19e édition. Cela n'a pas été sans hésitation. Mais tout de même, en guise d'avertissement au seuil de cette manifestation, vous dire que ce n'est pas seulement ou ce n'est pas par ironie désabusée que nous avons choisi ce titre. La cause est entendue, les équilibres économiques, sociaux, environnementaux, tout ça n'est pas réjouissant et on est assez loin du meilleur des mondes. Mais pour autant, il ne s'agit pas, au fil de cette manifestation, de s'enfermer dans ce cauchemardesque meilleur des mondes d'Aldous Huxley, mais plutôt d'essayer de voir en quoi la littérature, et c'est pour ça qu'on est réunis, et c'est pour ça que pendant une dizaine de jours, une quinzaine d'auteurs, dans le cadre de 60 rencontres, vont se succéder, essayer de voir en quoi la littérature, elle peut nous sortir de notre monde quotidien. On va vous emmener sur les continents, d'Iran au Chili, du Brésil à l'Italie, de l'Espagne, enfin j'en oublie, Haïti. Donc un grand voyage, un dépaysement, mais pas seulement. C'est aussi une manière de regarder comment la littérature peut transformer le monde. Il y a beaucoup de chroniques sociales dans notre programmation. J'avais des notes, mais je ne les lis pas, donc tout va bien. Mais vous reconnaîtrez évidemment ce que fait cette fois-ci sous forme poétique Laura Kosciuszko, ce que nous propose Douglas Kennedy. Beaucoup également de tentatives pour transformer le monde. Petit clin d'œil à l'inventeur de Miguel Bonnefoy qui nous parle du passé pour éclairer le futur. Et ce jeu des temps, des concordances des temps, il nous est important et c'est peut-être la raison pour laquelle on choisit chaque année de faire cohabiter des auteurs confirmés et puis de jeunes auteurs qui souvent reviennent d'ailleurs après nous voir, après que grâce à Martine Laval, on ait pu les faire découvrir au public. Je ne les cite pas parce que j'en oublierai, mais je pense particulièrement, pas tous, mais je pense particulièrement à Zero Kalkar, qui cette fois-ci, pour cette année, va nous offrir une petite percée dans le monde de la bande dessinée. Si on conduit cette manifestation, toute l'équipe, c'est parce qu'on est persuadé que la littérature a un pouvoir de transformation du monde et que ce pouvoir de transmission d'un espoir, d'un monde meilleur, il doit aussi s'adresser prioritairement aux jeunes publics. Sur les 60 rencontres qu'on organise, près de 20 ont lieu dans des lycées, dans des universités. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est aussi une manière de faire confiance et à la jeunesse et à la littérature. Évidemment, une manifestation comme celle-ci, elle n'existe que grâce à des soutiens nombreux. Et je dois d'abord commencer par remercier la librairie Mola qui nous accueille ce soir fidèlement, comme chaque année. Remercier bien entendu les institutions, la DRAC, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la mairie, la métropole de Bordeaux, le CNL et la SOFIA. Et remercier tout particulièrement toutes les structures qui nous accueillent, des librairies, médiathèques, des cinémas, les universités, les lycées. On est très, très, très attachés à la présence dans les librairies parce que c'est aussi une manière de défendre le monde du livre que d'aller en proximité auprès de ces acteurs culturels là. Les remerciements s'adressent bien sûr aux auteurs qui vont sillonner l'Aquitaine. On va les balader dans 8 départements, donc avec des programmes parfois très chargés. Et merci à eux et parfois à leurs éditeurs d'accepter ce travail. Et puis merci à vous, à votre curiosité, et puis d'être présents si nombreux ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis un bon festival en vous remerciant à nouveau.
De vous souhaiter la bienvenue. J'ai toujours pensé au pouvoir de la fiction. J'ai toujours l'impression, même à mon âge, de grandir quand je lis un livre. Et c'est important de dire ça aux gosses, aux ados, aux jeunes, aux plus vieux. Voilà, la puissance de la fiction. Et on est tous là justement parce qu'on y croit et qu'on veut la faire, surtout partager. En tout cas, c'est mon job que j'accomplis avec bonheur, avec Cécile. Et on n'a pas fini, hein.
Merci. Juste un mot pour vous dire, tellement je suis heureuse de voir cette salle bien remplie. Ça nous a beaucoup manqué. Il y a eu 2 années un peu compliquées pour tout le monde, mais aussi pour les auteurs, les éditeurs, les libraires et pour nous, opérateurs culturels, qui défendons ce travail depuis donc 19 ans, comme l'a dit Alexandre Perrault, notre président. Et je suis heureuse qu'on soit encore parmi vous, avec des auteurs que l'on aime, que l'on défend, et les libraires, les éditeurs, attachés de presse, etc., tous les acteurs culturels qui nous accompagnent dans ce travail, sans qui on ne serait pas là, bien évidemment. Donc merci à vous, et merci à André Kourkoff, et c'est Sonia Moumen qui va modérer cet échange. Bonne soirée. Merci.
Bonsoir, c'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir ce soir André Kourkoff. André, bonsoir.
Bonsoir.
La rencontre va se passer en français. Vous allez voir, il parle très bien français.
Parfois oui, parfois non.
Alors, il m'a confié revenir tout juste d'Allemagne, donc il est encore un peu dans la langue allemande. On va voir s'il arrive à faire la bascule en français. Je crois que vous parlez beaucoup de langues européennes.
Que six.
Alors, André Kourkoff, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent et connaissent son œuvre. Vous êtes un écrivain ukrainien, né en Russie, d'origine russe. Vous êtes né du côté de Leningrad, si je m'abuse, Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Et très jeune, à 2 ans, vous êtes parti vivre en Ukraine. Peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur ce pan de votre histoire familiale. Vous avez exercé beaucoup de métiers et puis vous êtes arrivé à l'écriture et à la littérature. En France, votre œuvre a été reconnue, identifiée avec Le Pingouin. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce livre très satirique et très, très déstabilisant qui est sorti aux éditions Liana Levy en France en 2000, mais que vous avez écrit en 1996. Ça a été pour vous un succès, je crois, international. Et depuis, régulièrement, vos romans sont publiés partout dans le monde et en France aux éditions Liana Levy. On ne va pas tous les citer. Vous avez une table peut-être à l'entrée que vous avez déjà vu un certain nombre des textes d'André Kourkoff. Vos romans sont mélancoliques et satiriques. Il parle du pouvoir, de la guerre, d'absurdité, de peur. L'alcool et le froid sont toujours très présents. Parfois l'amour, on y reviendra sans doute. Et vous avez une manière de nous faire vivre les hivers glacés de l'Ukraine comme personne. Cette année, vous avez une triple actualité en France, puisque vous nous parlerez peut-être aussi de votre actualité ailleurs en Europe. Mais en France, vous avez une triple actualité. D'abord, en février 2022, la sortie du roman « Les abeilles grises ». Donc, c'était en février dernier, au moment où a éclaté la guerre en Ukraine. On reviendra évidemment sur ce titre. Puis, en octobre 2022, donc quelques mois plus tard, L'oreille de Kiev. Vous nous expliquerez comment ce roman, vous l'aviez commencé avant, mis un peu en attente et repris pour qu'il soit. Il est sorti vraiment tout récemment. Et nouvelle actualité en France, en novembre, tout récemment, vous venez d'obtenir le Médicis étranger pour Les abeilles grises. Donc on va passer un petit peu de temps sur ces deux textes qui font votre actualité 2022, si vous le voulez bien. Et puis ce sera aussi l'occasion de nous parler de l'Ukraine, de la guerre, et puis j'espère aussi de littérature. Peut-être pour commencer cet échange, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre vie et comment vous allez?
Oui, ce n'est pas une question très simple. Oui, la guerre en Ukraine a commencé en 2014, mais c'était une guerre plutôt locale dans l'est du pays. Et aussi, beaucoup des Ukrainiens ont réussi d'ignorer cette guerre permanente et la ligne de front jusqu'à le 24 février était 430 kilomètres. Aujourd'hui, cette ligne de front n'existe pas, comme la zone grise aussi n'existe plus. À partir de février, bien sûr, la vie de chacun en Ukraine est changée. Je pense que 50% des populations ont été déplacées. Il y a aujourd'hui entre 5 et 7 millions des Ukrainiens qui sont réfugiés en Europe. Pas seulement en Europe, parce que j'ai passé 2 jours en Islande en septembre et j'ai trouvé là 5 000 réfugiés d'Ukraine. Il y a beaucoup des Ukrainiens aussi en Argentine, en Australie, aussi jusqu'au Japon. Ils sont arrivés. Et bien sûr, après des réussites de l'armée ukrainienne, beaucoup de réfugiés sont revenus. Mais en fait, c'est très difficile à dire qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui avec des Ukrainiens en Ukraine, parce que, par exemple, il y a plein du monde à Kiev aujourd'hui, mais 30% des habitants sont d'aujourd'hui, c'est les gens déplacés de Kharkiv, des sommets de l'est du pays. Et 30% des Kieviens sont à l'étranger. Et circulation des gens entre Ukraine et l'Europe est incroyablement actif, dynamique, parce que c'est impossible d'acheter les billets pour les trains entre Kiev et Pologne.
Et vous-même, alors, comment vivez-vous actuellement? Vous en êtes...
Oui, en fait, moi et ma femme, nous étions à Kiev au début de la guerre. En fait, le soir avant, j'ai cuisiné borscht pour mes amis, on a fait une fête et en fait, j'ai invité des amis qui sont venus en Ukraine, d'Angleterre, des États-Unis pour témoigner la guerre possible. Parce que c'était le plus grand nombre des journalistes du monde entier qui s'assemblaient à Kiev en attendant en fait cette guerre. J'ai invité Luke Harding, The Guardian, Tim Judah, The New York Times, l'ambassadeur de Brésil, qui est toujours à Kiev. Et je fais le borscht. Et maintenant, cette borscht, cette soupe traditionnelle ukrainienne, très savoureuse, est présente dans 3 livres. C'est-à-dire que c'est pour ces 2 journalistes, la guerre commençait avec borscht, après la borscht. Parce qu'en fait, on a partagé un peu des blagues pendant la soirée. On a dit que peut-être c'est la dernière borscht à Kiev. C'était la dernière borscht à Kiev jusqu'à ce matin. Et le prochain matin, à 5h du matin, on était réveillés par les explosions derrière les fenêtres. Et j'étais paralysé, j'étais choqué. J'approchais tout de suite la fenêtre, j'ai regardé la rue désert, vide, pendant 40 minutes. Après, une voisine était sortie avec des chiens et la vie recommençait, mais à 6 heures du matin, il y avait encore 2 explosions. Et à 7 heures du matin, moi et ma femme, nous sommes sortis pour regarder les abris anti-bombes dans le quartier. Nous habitons dans le centre historique de Kiev. Et on a resté encore une nuit à Kiev. Et après, nous sommes partis pour la maison dans la campagne, pas loin de Kiev, mais mon ami m'appelait et demandait où nous sommes. Et j'expliquais que nous sommes près de Broussiliv, petite ville. Il a dit qu'il faut aller tout de suite plus loin, vers l'est, vers Lviv, parce que les chars russes approchent Kiev de même côté. Et nous devions repartir. Et j'ai conduit la voiture 22 heures. Et on n'a pas réussi d'aller jusqu'à Lviv parce qu'il y avait des bouteillages incroyables, 60-70 km chaque bouteillage, avec des voitures, avec des numéros de plaquettes.
De plaques.
De plaques de toutes les régions d'Ukraine. Et je pouvais juger quel chauffeur... était parti hier ou avant-hier. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui dormaient, en fait, dans la voiture, en attendant quand le bouteillage se bouche. Et on a passé aussi, en fait, nous sommes arrivés au village, nous avons passé près de Boutcha et Gostomel. Et là, il y avait déjà des explosions et des feux d'artillerie. Et ma femme, elle m'a dit qu'elle a vu un missile qui passait sous notre voiture. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Je pense que j'étais complètement concentré sur les voitures en face. Et l'Ukraine est un pays de même taille que France et il n'y a qu'une autoroute, pas comme ici, de Kiev vers Pologne. C'était trop petit pour, je ne sais pas combien, 100 000, 200 000 voitures qui essayaient de se bouger vers la frontière avec l'Europe.
Alors, on y reviendra sans doute, mais vous avez beaucoup évoqué Kiev, puisque Kiev, c'est votre ville.
Oui.
Et vous avez, au moment où la guerre a éclaté, vous étiez en train d'écrire L'Oreille de Kiev en français. Alors, en russe,
L'Oreille de Kiev était déjà écrit.
Était déjà écrit.
Et oui, en fait, j'ai écrit le 3e roman sur Samson et Nadejda.
Alors, racontez-nous un petit peu, donc, Kiev, votre ville. L'action de L'Oreille de Kiev se passe, bien évidemment, à Kiev. C'est une saga romanesque en trois parties, c'est
oui,
ça
c'est, ouais. C'est aussi un polar historique, on peut dire, ça a commencé, le travail a commencé en 2017. 2 semaines après, je finis le roman « Les abeilles grises ». une dame, une lectrice, m'a téléphoné et m'a dit qu'elle a un cadeau pour moi. Et elle est arrivée par voiture le même soir avec une boîte en carton complète avec des documentations des services secrets des bolcheviks, des VCK. C'est beaucoup de c'est le cas, oui, c'est,
on des dit, archives,
des, c'est des archives, des vrais archives écrits à la main en russe, en ukrainien, en polonais, en hébreu. Et bien sûr, tous les cas, toutes les histoires que s'est passé à Kiev, auprès de Kiev, en 1919, 1920, 1921.
Et c'est ces archives-là qui vous ont donné envie d'écrire ce roman historique?
Oui, mais j'étais toujours fasciné par l'histoire. J'écrivais 5 romans sur l'histoire soviétique, par exemple, et l'histoire de la guerre après la révolution d'octobre 1917. C'était toujours très intéressant pour moi. Je suis sûr que vous connaissez, vous avez lu le roman de Bulgakov, Les jours des turbines, mm-hmm. ou la garde blanche. Je ne sais pas le titre, ouais, quel titre est utilisé ici. C'est aussi, c'est sur la même période. C'est le temps quand la guerre civile durait 4 ans, de 1918 jusqu'à 1921. Et sur le territoire d'Ukraine, 5 grandes armées se battaient pour l'Ukraine. C'était 2 armées ukrainiennes, armée de Hetman Skoropadsky, qui était soutenue par les Allemands. Il était le chef de conseil central, on dit. Quand l'Ukraine a annoncé son indépendance, mais il voulait avoir des contacts et des connexions avec la Russie. L'autre chef d'Ukraine indépendant, Simon Petliura, avec sa armée, il battait pour l'Ukraine complètement indépendante de la Russie. Et bien sûr, l'armée la plus grande anarchiste, a été organisée en Ukraine par Nestor Makhno, parce que l'Ukraine, c'est patrie d'anarchie, historiquement. Ouais. C'est, et encore l'armée russe, bien sûr, et l'armée blanche, l'armée tsariste. Et Kiev était occupé par l'armée russe 4 fois pendant ces 4 ans. Et chaque fois, le pouvoir communiste, bolchevique, restait à Kiev pour quelques mois, 5 mois, 4 mois. Après la quatrième tentative d'armée russe, quand ils sont réussi d'occuper toute l'Ukraine et transformer l'Ukraine dans une république soviétique. C'était 1921. Mais j'ai oublié encore une armée, parce que la dernière partie de la guerre, 1921, était entre la Pologne et l'armée russe, parce que c'était les Polonais qui contrôlaient Kiev en 1921, c'est-à-dire 6 armées.
Ça, c'est le fond historique de votre roman, qui est un vrai roman, qui est quasiment un polar. Et vous faites évoluer un personnage, alors Samson, c'est ça, le jeune qui est étudiant, et votre roman commence dans un bain de sang, puisque son père est tué assez violemment, et lui se fait trancher l'oreille, la fameuse oreille de Kiev. Et à partir de là démarre une histoire assez, à la fois très réaliste et fantastique pour Samson. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la trame romanesque, sans tout dévoiler, bien évidemment.
En fait, je ne veux pas vous raconter cette histoire. Je veux dire que dans le premier livre, je n'ai pas utilisé les vraies histoires des archives. C'est les histoires qui se passent au début avec Samson et Nadejda, ils sont inventées. Dans le deuxième roman, il y a déjà une histoire. Pour moi, c'était très important de montrer la vraie vie de Kievien dans ce moment, quand il ne savait pas ce qu'il va passer demain, quelle armée va entrer Kiev demain, qui sera tué. En fait, chaque armée ramenait avec elle les d'argent, les comment dire, c'est-à-dire c'est les tsaristes, bien sûr, ont utilisé les roubles russes.
Ah oui, oui. Chacun utilisait sa monnaie.
Oui, sa monnaie, oui. Oui. Et beaucoup de qui viennent avaient chez eux trois, quatre sortes de monnaie. Et il y a beaucoup de choses qui sont pareilles aujourd'hui. Parce que sur le territoire occupé par la Russie, on peut payer avec monnaie ukrainienne et monnaie russe. Avant Kherson, une grande ville dans le sud, avant Kherson était libérée, les gens de Kherson ne voulaient pas accepter les roubles russes des soldats russes. C'était déjà deux, trois semaines avant la libération. Et les détails comme ça, ils sont très importants. En fait, Kiev était attaqué de même, en 1918, de même côté par l'armée russe que Kiev était attaqué cette année, de nord-ouest.
Vous avez le sentiment que l'histoire se répète d'une certaine manière.
Oui,
vous avez été visionnaire.
Mais peut-être que ce n'est pas coïncidence, parce que le 10 octobre, les mêmes rues dans le vieil Kiev étaient bombardées par les Russes, qui étaient bombardées en 1918 par l'armée russe. Mais en 1918, la rue Vladimirska, c'était la rue où se trouvait le Parlement ukrainien. Aujourd'hui, le Parlement se trouve dans un autre quartier, pas loin de Vladimirska. Et les Kieviens ont tout de suite répondu à ce bombardement avec une blague, que les Russes utilisent les plans anciens de Kiev. Mais bien sûr, il y a beaucoup de différences, parce que la violence était la même. La violence de l'armée russe aujourd'hui à Boutcha, à Gostomel, c'était la même sorte de violence qui s'est passée pendant cette guerre après la révolution. Mais la société qui vient n'était pas consolidée comme aujourd'hui, parce que bien sûr les plus riches habitaient dans le centre historique sur la colline. Sur trois collines, quatre, on ne sait jamais pas combien de collines il y a à Kiev. Mais les gens simplement avaient peur, parce qu'on ne savait pas qui va venir demain et qu'est-ce qui va passer. Et pour se protéger, pour survivre, beaucoup des habitants de Kiev ont détruit les numéros des maisons et les noms des rues. Parce que, par exemple, si c'était les Russes qui sont venus la deuxième fois, il avait des listes des ennemis qui devaient être tués. Et parfois, et chaque fois, c'était des soldats différents. Ils ne pouvaient pas trouver l'adresse dans une ville où ils n'étaient jamais.
Ce changement d'adresse, vous l'utilisez aussi comme artifice romanesque dans Les Abeilles Grises. On aura l'occasion.
Oui, c'est une autre histoire.
Ouais, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Oui. Moi, je voulais revenir sur votre sens du détail, puisque à la fin de votre roman, on a une carte, on a une présentation des rues. Tout est extrêmement précis. Pourquoi avoir choisi à ce point-là, ce niveau-là de précision? Et puis, quelle place tient Kiev dans votre imaginaire, la ville de Kiev?
Non, Kiev est... Je veux dire que j'ai utilisé vrai Kiev de ce période.
Oui.
En fait, Kiev était plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grande ville avec entre 3 et 5 millions d'habitants. Sur deux côtés des fleuves Dniepro, Mais à l'époque, Kiev était seulement sur une côté des fleuves, sur les collines, et près des fleuves et autour des collines. Et les gens plus pauvres, les travailleurs, ils habitaient en bas, et l'aristocratie, les gens plus riches, les professeurs, habitaient sur la colline. Et pour moi, bien sûr, c'était très important d'utiliser les vraies maisons, les vraies adresses, comme ils sont présents aussi dans les documents. Et beaucoup de maisons existent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la police sur Tarasovska, c'est aujourd'hui, c'est pas la police, mais c'est fire station.
C'est pompier.
Pompier, c'est la station des pompiers. Mais la même maison, la même entrée et le même planning dedans.
Et alors, vos personnages de l'oreille de Kiev, ils poursuivent. Dans le titre original, c'est le.
C'est Samson et Nadezhda. Nadezhda, c'est le nom des.
Du personnage féminin.
Des féminins, oui.
C'est une rencontre d'amour un peu improbable.
Oui.
Entre une bolchevique et cet étudiant qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie.
Oui, c'est. En fait, maintenant, je pense que. C'est presque la même situation comme dans le pingouin, parce que c'est dans le temps dangereux, on se dépêche de créer une petite société, une famille, vraie ou fausse, mais on essaye de vivre avec quelqu'un parce que c'est moins dangereux. Et Samson, comme il reste seul dans un grand appartement parce que sa mère et sa sœur était mort des maladies avant, des typhus.
Typhus,
oui. Yeah. Et le père est tué par les bandits, par les Cosaques. Et il est seul. Et tout de suite, bien sûr, quand l'armée rouge vient, ils disent, les commandeurs disent aux soldats que vous pouvez chercher les appartements et vous pouvez habiter chez ceux qui viennent. Ils doivent vous donner quelque chose à manger,
une chambre, un lit.
Oui, et comme ça, deux soldats d'armée russe arrivent dans l'appartement et ils décident d'occuper le bureau du père. Et quand plus tard, il a réussi de vider le bureau, c'est-à-dire que c'est en fait. Ces soldats étaient engagés dans les crimes et ils étaient arrêtés. Et il veut que quelqu'un plus sympa habite avec lui dans son appartement. Et Nadezhda, elle travaille pour le bureau des statistiques, pas loin de cet appartement, mais elle habite loin. Elle habite près du fleuve. Et il visite ses parents. Et explique que c'est mieux pour elle habiter chez lui parce que c'est moins dangereux. Il ne doit pas marcher chaque soir chez elle.
C'est un peu une histoire d'amour arrangée hein, par la concierge au début.
Oui, ça aussi.
Et petit à petit, il y a un sentiment qui semble naître. Mais c'est vrai que c'est assez présent dans vos romans, ces histoires d'amour improbables qui ne sont pas des passions, pas du tout. Qui sont plutôt des petits arrangements entre hommes et femmes pour faire un bout de chemin ensemble. Dans Les Abeilles Grises aussi, on a ce type de rencontre un peu improbable.
C'est aussi le terme dangereux. C'est-à-dire.
Je voulais revenir sur Kiev. Peut-être pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à Kiev à l'âge de 2 ans. Ce n'était pas du tout votre ville.
Non, ma grand-mère habitait à Kiev, dans le banlieue, mais très aristocratique. C'est comme un petit village connecté avec le centre de Kiev par le tram. Et le tram traverse, jusqu'à aujourd'hui, traverse la forêt. Pendant 15 minutes, on fait le voyage dans la forêt. On peut sortir et assembler des champignons et après recommencer le voyage. Je fais ça comme adolescent. Et mon père était pilote militaire. jusqu'à 1962.
Russe.
Soviétique.
Soviétique.
C'était soviétique, pas ouais. important si ouais. c'était russe ou pas russe. C'était l'Union soviétique avec des gens soviétiques. Et moi, je suis aussi post-soviétique parce que j'habitais 30 ans dans l'Union soviétique. Mais en fait, après la crise des Caraïbes, Nikita Khrushchev, mon politicien soviétique préféré, il pensait qu'il faut montrer que l'Union soviétique n'est pas très agressive. Et il a annoncé le désarmement de l'armée soviétique et 100 000 officiers étaient démobilisés, démissionnés. Et parmi eux, mon père. Ma mère travaillait comme médecin à Leningrad. Et après, il cherchait le travail dans l'aviation civile. Et bien sûr, l'usine la plus grande des avions civils, Antonov, se trouve à Kiev. Et il était invité de travailler comme un pilote d'essai. Et les premiers six ans, moi, mon frère Misha, qui est 7 ans plus âgé que moi, ma mère et lui, et nous habitions avec ma grand-mère, qui était aussi la chef des sanatoriums pour les enfants avec tuberculose. Parce que ce village, c'était comme banlieue avec beaucoup de sanatoriums, beaucoup des hôpitaux. Oui. Et après 6 ans, l'usine d'Antonov a nous donné un petit appartement en face de l'usine. Et comme ça, je suis devenu d'abord kiévien et après ukrainien.
Alors vous avez dit au Monde, dans un article, je suis un russe ethnique, je suis devenu un ukrainien politique. Vous vous souvenez de ça?
Oui, mais je me souviens. Mais c'est très simple à dire. En fait, je pense que je suis devenu avant un ukrainien mental. Parce que la mentalité des Russes, c'est la mentalité collective jusqu'à aujourd'hui. Et pour les Russes, stabilité est plus importante que la liberté. Et les Ukrainiens étaient toujours individualistes. Et pour les Ukrainiens, liberté est plus importante que stabilité. Peut-être à cause de ça, il n'y avait jamais une société stable en Ukraine. Et je me souviens, j'étais anticollectif à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans. En fait, j'ai commencé à écrire avec la poésie à l'âge de 7 ans. Et quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais beaucoup d'amis qui écrivaient la poésie aussi, beaucoup de poètes amateurs. Et dans ce moment, il y a chaque 3-4 poètes, on annonçait qu'ils forment un mouvement poétique avec manifeste, avec description des différences et tout ça. Et quelques de mes amis créaient les groupes des poètes pour faire les rencontres ensemble, les lectures. Et j'ai décidé de faire aussi un groupe des poètes, mais qu'avec moi seul.
Vraiment
individualiste. J'ai inventé le nom des groupes. J'écrivais le manifeste, tout ça, mais j'étais seul dans ce groupe.
Et de la poésie, vous avez finalement pratiqué des formes d'écriture extrêmement variées, puisque vous êtes aussi essayiste, scénariste, ouais. Vous écrivez des articles aussi pour des grands quotidiens internationaux, américains, britanniques. Pourquoi et toujours en russe, où il vous arrive aussi
Non, à partir du début de la guerre, j'écrivais beaucoup des articles, des essais en anglais. parce que plutôt, il était commandé par Financial Times, The Economist, BBC. Et comme anglais, c'est une des langues de ma famille, ma femme est anglaise, d'origine d'Écosse et d'Irlande. Et en fait, nous parlons 4 langues dans la famille. C'est-à-dire, les enfants parlent trop, deux enfants parlent trois, le fils Théo, qui est plus âgé, il parle quatre. Si. Mais normalement, je parle russe, bien sûr, et ma femme parle toujours avec des enfants que anglais. Mais dans la présence d'enfants, nous parlions avec ma femme toujours français ou allemand pour provoquer les enfants. Comme le résultat, Théo parle allemand, c'est pas mal. Et, je suis désolé, notre fille n'est pas très curieuse. Elle parle que trois langues.
Elle n'a pas fait aussi fort que son papa qui en parle six. Vos romans, vous les écrivez, vous réclamez être écrivain de langue russe, oui, quand même. Pourquoi l'ukrainien, c'est une langue aussi que vous parlez?
Je parle, j'écris aussi. J'écris non-fiction en ukrainien et livres pour les enfants. Mais bien sûr, j'ai appris ukrainien à l'âge de 14 ans. C'est-à-dire que c'est une langue apprise. Je lis avec plaisir. Je peux écrire des articles aussi en ukrainien, mais pas la littérature, parce que je crois que je n'ai pas maîtrisé suffisamment bien. En fait, pour écrire, il faut être né avec la langue. Et bien sûr, en Ukraine, il y a pas mal d'écrivains et poètes russophones. Très bon, mais pas seulement russophone. Il y a la littérature de Crime tatar, dans la langue des Tatars de Crime. Il y a des écrivains qui écrivent en hongrois, dans la région des Carpates. Il y a une écrivain qui écrive en gagaouz. Nous avons une minorité gagaouz, c'est une minorité turque, dans la région de Bessarabie, pas loin d'Odessa, sur la frontière avec la Moldavie.
Et est-ce qu'il existe une littérature ukrainienne en ukrainien?
C'est la littérature en ukrainien, c'est la littérature principale d'Ukraine. Mm-hmm. En fait, la littérature en ukrainien est beaucoup plus dynamique et plus moderne, plus révolutionnaire, parce que la langue était maltraitée, on peut dire. En fait, c'est la guerre contre la langue ukrainienne menée par la Russie commençait en 1720, quand le tsar Peter de Grand signait un décret pour interdire la publication des textes religieux en ukrainien. C'était après la bataille de Poltava. 11 ans après, parce que oui, il faut j'ai évoqué la différence entre mentalité russe et mentalité ukrainienne. Un des instruments pour combattre contre la mentalité ukrainienne était la langue russe. La politique de russification était introduite par les tsars russes. Il y avait plus que 40 décrets par les tsars différents qui limitait l'usage de la langue ukrainienne ou interdit les publications en ukrainien. Et comme ça, bien sûr, pendant le temps soviétique, ukrainien était considéré aussi comme la langue des paysans. Et après la chute de l'Union soviétique, on a compris qu'il y a beaucoup de mots, des mots scientifiques, des mots de médecins, qui n'existent pas en ukrainien, parce que l'ukrainien n'était jamais utilisé par les gens de science, tout ça. Et la génération nouvelle des jeunes ukrainiens, ils ont compris que la littérature, vraie la littérature ukrainienne, commence aujourd'hui avec eux. Et bien sûr, c'était une motivation incroyable, parce qu'ils pouvaient inventer des mots. Et il y a beaucoup de mots qui étaient inventés et qui sont des mots normaux aujourd'hui. C'est la norme déjà. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, on peut créer la langue, recréer, on peut ajouter des constructions grammaticales, bien sûr, des mots, des phrases. Et dans ce cas, l'ukrainien est beaucoup plus vivant comme la langue. Que la russe, parce que en Russie, la rue s'est conservée, parce qu'il y a beaucoup de philologues qui battent contre les changements dans la langue. Parce que ça doit rester la langue de Dostoïevski et de Tolstoï. Je suis très heureux qu'il n'y avait pas de Dostoïevski ukrainien et de Tolstoï ukrainien. Il y avait une autre littérature, désolé, pas connue ici, parce que la littérature classique ukrainienne n'était jamais traduite. Mais ça va venir, je suis sûr, et c'est une autre littérature complètement autre. C'est beaucoup plus européen. Et la littérature d'aujourd'hui, des jeunes écrivains ukrainiens, c'est aussi la littérature très européenne, très dynamique.
C'est vrai qu'on connaît finalement mal la littérature ukrainienne ici. Alors, avec vous, on découvre la littérature ukrainienne de langue russe. Je voulais passer maintenant aux Abeilles grises, donc qui a été publié en France en février dernier et qui vient d'obtenir le Médicis étranger. Alors, ce texte qui raconte l'histoire de Patcha et Sergeïtch, deux ennemis d'enfance, hein, qui sont vraiment présentés comme deux ennemis d'enfance, dans la zone grise, donc une zone qui n'est pas vraiment dans la guerre, mais enfin qui est un peu dans la guerre quand même.
C'est dans la guerre. C'est une zone. Chaque guerre créait une zone grise entre opposition des armées opposantes. Ouais. Et très souvent, dans ce territoire, entre opposition des ennemis, il y a des villages, des villes, il y a des gens qui habitent et qui ne veulent pas partir.
Et c'est le cas de vos deux personnages qui, au début, en tous les cas dans la première partie du roman qui est construit en deux parties, ne souhaitent pas partir. C'est l'hiver, il fait extrêmement froid. Ils sont les deux seuls habitants dans ce village régulièrement bombardé. En tous les cas, on sent bien que le danger est très très proche. Et ils sont contraints, alors ils ont des positions politiques assez, assez différentes, et ils sont finalement contraints à la solidarité.
En fait, c'est un peu différent.
C'est un peu différent.
Oui, parce que les gens à Donbass étaient toujours politiquement très passifs. C'est-à-dire, c'est à cause de la guerre et à cause des positions de ces maisons, en fait, ces deux personnages ont des sympathies politiques différentes. Parce que la maison de Pashka est en face des positions des séparatistes. Et il peut aller acheter quelque chose dans le village contrôlé par les Russes et par les séparatistes. Et le jardin de Sergeïtch est en face des positions de l'armée ukrainienne. Et si on pense des réfugiés après 2014, quand la guerre à Donbass s'éclatait, les gens qui habitaient près de la frontière russe, ils trouvaient le refuge en Russie pour les raisons géographiques, pas pour les raisons politiques. Et la même chose, beaucoup de gens qui étaient pro-russes, pro-soviétiques, qui habitaient près de Kiev, ou plus proche à Kiev, ils se trouvaient comme les réfugiés dans l'Ukraine centrale. Ils ne sont pas devenus pro-ukrainiens. Et c'est un mélange, parce que bien sûr, Donbass était contrôlé par mafia locale, par les oligarques locaux, qui n'étaient pas très intéressés dans les politiques. En fait, les oligarques de Donbass, ils étaient contre la Russie et ils essayaient de contrôler le gouvernement d'Ukraine. Parce que les Russes essayaient d'acheter des mines, des usines de Donbass et ils n'ont jamais réussi parce que les oligarques voulaient garder ce territoire sous le contrôle.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire un roman autour du Donbass, autour de cette guerre, avec le personnage d'un apiculteur et de ses abeilles?
Oui, en fait, j'écris le roman à cause d'une rencontre, par hasard, parce que après 2014, il y avait beaucoup de réfugiés des Donbass, mais d'abord des riches, des réfugiés riches, qui s'est déménagé des Donbass à Kiev, parce que tous les gens riches des Donbass, s'il y avait suffisant d'argent, ils achetaient des maisons, des villas, des appartements à Kiev comme investissement. Et parfois, il y avait des hommes des affaires qui achetaient 30 appartements, mais simplement garder comme investissement. C'était les appartements vides dans un immeuble immense. Et à cause de la guerre, ils sont déménagés à Kiev. Et j'ai commencé à les rencontrer chez mes amis. Et un jeune homme de Donetsk qui avait un magasin, petit magasin à Donetsk, il m'a raconté que chaque mois, c'était 2016, je crois, chaque mois, il va par voiture jusqu'à la ligne de front où il y a un village avec cette famille qui restait là. Tous les autres abandonnaient le village. Et il les ramène des médicaments, des choses qu'ils ont besoin, parce que là, il n'y a pas d'électricité, pas de magasin, pas de pharmacie, pas de pouvoir ou administration. Et j'ai compris qu'il parle de la zone grise, c'est-à-dire c'est no man's land. Et c'était le moment quand je m'intéressais sur le sujet. J'ai regardé la carte de la guerre, j'ai compris la longueur des zones grises, j'ai compris qu'il y a dizaines et dizaines de villages là-bas et un quartier de la ville Avdiivka. Et j'ai commencé de faire des recherches. J'ai trouvé à Kharkiv une fille qui a organisé NGO, une organisation pour imprimer le journal pour la zone grise, pour les habitants des zones grises, parce qu'ils n'avaient pas d'accès à sources d'informations. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il passe, parce que comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion téléphonique, pas d'Internet, pas de télé, radio. Et elle a fait ce journal avec des articles sur les nouvelles pour les retraités. Il n'y avait pas de politique, aucun mot de la guerre, c'est-à-dire. Et les volontaires qui passaient, parce qu'il y avait beaucoup de volontaires qui ramenaient des choses dans les villages comme ça, ils ramenaient aussi ces journaux aux gens. Et après, j'ai décidé d'écrire parce qu'en 2016-2017, il y avait déjà plus que 200 romans sur la guerre, sur les batailles. Mais aucun roman sur la vie des gens civils pendant la guerre. J'ai décidé d'écrire un roman sur comment les gens vivent dans le centre de la guerre. Et pourquoi apiculture? Parce que, bien sûr, apiculture est très importante pour l'Ukraine. Et tous les apiculteurs en Ukraine sont considérés comme les hommes sages. On ne trouve pas un apiculteur agressif. Ils sont toujours amicaux. Ils sont respectés par les voisins parce qu'ils peuvent parler à nature. Ils travaillent avec des abeilles. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose presque comme un chaman.
D'ailleurs, il est en permanence avec ses abeilles qui, sauf à un moment très particulier de votre roman, ne sont jamais agressives, elles non plus, ne le piquent jamais. Il y a une relation de confiance totale entre ces abeilles.
Oui. Mais en fait, il était abandonné par sa femme qui le laissait avec sa fille et retournait dans la ville Vinnytsia, une grande ville. Il restait avec des abeilles, avec 6 rouges des abeilles. Et comme il est quelqu'un aussi très simple, très post-soviétique, il adore les abeilles encore parce qu'il pense que ils sont les seuls living things.
Être vivant.
Être vivant qui ont réussi de créer une société communiste. Parce qu'ils travaillent, ils ne sont pas payés, ils produisent la miel est pris. Et il continue. Il ne proteste jamais. Et comme ça, il pense que les abeilles sont comme, aussi comme les gens de Donbass qui travaillaient toujours dans les mines, partout. Ils étaient maltraités, mal payés, mais ils continuaient.
Alors, votre personnage principal, donc Sergueï, et ses abeilles, à un moment donné, il va décider de quitter la zone grise pour ses abeilles, notamment pour les protéger. Et donc, on part sur un grand voyage qui va l'amener à rencontrer une femme, et qui va l'amener aussi à une introspection. Donc finalement, votre romance est construite en deux parties. Une première partie vraiment très, très dure, très froide, où on boit beaucoup d'alcool pour se réchauffer et pour oublier.
C'est
puis une
pas
deuxième
beaucoup
partie...
pour l'Ukraine.
Et une deuxième partie qui est très solaire. Il fait beau, les abeilles se nourrissent, vont butiner. Pourquoi cette construction en deux parties?
Je pensais démontrer en fait trois Ukraines différentes. Ukraine occupée dans la zone grise, Ukraine libre dans la région des Zaporizhia, et Ukraine annexée parce qu'après il va jusqu'à la Crimée et il passe 2 mois là-bas avec des abeilles de son ami qui est mort, un tatar de Crimée. Oui. Mais le voyage commence parce que il a compris, grâce à un soldat qui le visite, soldat ukrainien, que le miel fait avec des champs de bataille et amer à cause des poudres de gunpowder,
des canons,
oui, parce que poudre de canon tombe sur les fleurs partout, et comme ça, ce poudre de canon est présente dans le miel, et il commence à rêver de faire les vacances pour les abeilles en février, mais il attend le printemps pour les ramener jusqu'à le territoire loin de la guerre, pour bien sûr pour avoir des miel normal.
Et à travers ce personnage, se pose la question en temps de guerre de rester ou de partir. C'est des questions aussi que vous-même vous posez.
Yep. Je reviens à Kiev au début de décembre. Ma famille est à Kiev maintenant, oui, et je suis chaque jour, je parle avec mes amis qui sont à Kharkiv, à Sumy, dans les régions différentes. Je suis aussi en contact avec mon collègue qui habite dans la ville occupée. C'est-à-dire que, en fait, quand je voyage, je ne pense pas que j'ai quitté la guerre. La guerre est toujours avec moi. Ouais. Pas seulement dans la tête, mais dans les textes que j'écris.
Le titre de la rencontre aujourd'hui, c'est Écrire et résister. Qu'est-ce que ça vous suggère, ce titre, Écrire et résister?
Oui, écrire et résister. Je ne peux pas écrire les romans. Le troisième roman sur 1919 est arrêté. Mais j'écris beaucoup, j'ai publié plus que 70 articles et essais sur la guerre.
Donc et là, cette année 2022.
Oui, oui. Ouais. Oui, mais je ne suis pas un seul écrivain qui fait ça, et je crois que tous les auteurs des proses, tous les romanciers, ont arrêté d'écrire les romans en Ukraine. Il y a beaucoup de journaux, des articles écrit par les Ukrainiens, aussi par les écrivains qui sont comme soldats maintenant sur la front. Il écrit sur la guerre dès la ligne de front et publie les textes en Italie, en Pologne, en France, je crois aussi. Parce que maintenant, on trouve des écrivains partout. Mais en fait, à partir de 2014, nous avons deux littératures en Ukraine. Il y a la deuxième littérature qui est sur la guerre, écrite par les vétérans de la guerre. Et avant 24 février, il y avait 400 000 vétérans de la guerre à Donbass. Et parmi eux, 200-300 des écrivains qui écrivent rien avant ça. Ouais. Et il y a déjà des maisons d'édition pour cette littérature créées par les vétérans de la guerre de Donbass.
Et la deuxième forme de littérature
traditionnelle, ukrainienne. Mais aujourd'hui, les deux littératures sont militantes sur la guerre. Il y a beaucoup plus de romans et livres sur la guerre que des histoires d'amour. Et ça me fait peur. Parce que après la guerre est finie, il faut contrôler, je crois, la quantité des romans sur la guerre pour pas revenir une société trop militante.
C'est pour ça que dans vos textes, en dépit de la guerre qui rôde et de la quête de pouvoir qui est très très présente, il y a toujours beaucoup d'humour. Pourquoi c'est important pour vous l'humour, la dérision?
Ça a commencé dans l'Union soviétique, en fait. J'ai commencé à écrire prose par écrivant les blagues politiques et pas politiques. C'est-à-dire parce que la culture des blagues de mort soviétique était aussi une forme de résistance. C'était pas très dangereux parce que les blagues n'avaient pas des auteurs. Il n'y avait que des raconteurs. Et dans les années 1960 jusqu'à 1975, peut-être c'était possible d'être arrêté pour les blagues que tu as racontées. Mais personne ne savait pas qui est l'auteur des blagues. Oui, et pour moi, cet humour, spécialement l'humour noir, est devenu très important parce que ça m'aidait de regarder sur la réalité soviétique avec beaucoup d'ironie. C'est-à-dire que l'humour a créé un espace entre moi et la réalité soviétique. C'est-à-dire que je pouvais faire des blagues, je pouvais déformer la vie qui était déjà anormale.
Et comment votre humour et vos textes sont-ils perçus aujourd'hui en Russie? Est-ce que vous êtes...
En Russie, mes textes ne sont pas perçus, ils ne sont pas...
Ils sont pas édités.
Édités. Non. Je ne suis pas présent comme un auteur, là.
Donc finalement, c'est le seul pays dans lequel vous n'êtes pas un auteur...
Oui, je ne suis pas traduit en russe.
Et alors, c'est quelque chose qui vous chagrine, qui vous peine?
Non,
vous...
au début, j'étais surpris. Mais après, je suis devenu très heureux. Parce que, oui, je suis allé la dernière fois en Russie, en 2013, à Perm. On m'a invité pour une émission d'un festival qui était tout de suite interdit. Mais je parlais russe avec des gens qui parlaient russe et je sentais que je parle avec des étrangers. Des étrangers psychologiques et politiques, parce que c'est les gens qui utilisaient les mêmes mots, mais ils voulaient dire quelque chose complètement opposant. C'était quelque chose comme dans le livre de George Orwell. C'était impossible de parler des vérités.
C'est sur ces mots qu'on va clore la première partie de cette rencontre, avant de passer aux questions. Merci beaucoup, André.